Radio Okapi.
Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée que vous présente Belinda Bosuma. Le sommaire tout de suite. La tuberculose a déjà tué 210 personnes sur environ 4000 cas enregistrés l'an dernier en Ituri. Statistiques révélées hier par les autorités sanitaires de la place. Situation consécutive notamment à l'abandon de traitement par certains patients. Bonne nouvelle pour la population de Massissi dans le Nord Kivu. Elle bénéficie désormais de sa propre énergie électrique. Une première pour cette contrée. Une mini-centrale vient d'être construite par le PNUD. Et puis, Jean-Claude Kazembe déchu par une motion de censure, vous le savez. Du coup, le Haut-Katanga reste sans gouvernement. Mais comment la province sera dirigée? Réponse au cours de cette édition. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri où 210 personnes sont mortes de tuberculose sur environ 4000 cas enregistrés en 2016. Des chiffres révélés hier par le médecin chef des divisions provinciales de la santé en Ituri. C'était en marge de la journée de lutte contre la tuberculose, journée commémorée le 24 mars de chaque année. Mais à Bunia, la cérémonie officielle n'a eu lieu qu'hier mardi. Selon le ministre provincial de la santé, cette situation est due au faible taux de dépistage de cette maladie dans la plupart des zones de santé et aussi l'interruption ou l'abandon de traitement par certains patients. Il interpelle les autorités sanitaires et les communautés locales à multiplier les efforts pour éradiquer cette maladie dont le traitement est gratuit. Docteur Makou Sibura au micro de Delvin Waïsala.
J'invite donc les professionnels de santé et les partenaires impliqués dans la lutte contre la tuberculose à unir leurs efforts pour améliorer le dépistage et la prise en charge de la tuberculose, particulièrement chez nos enfants, afin de mettre fin à cette maladie dans notre pays et particulièrement dans notre province de l'Ituri. Pour ce faire, des actions innovantes et pérennes doivent être renforcées et poursuivies pour doter nos structures de moyens de diagnostic plus rapides et fiables. Aujourd'hui, les capacités opérationnelles du Programme national de lutte contre la tuberculose ont été améliorées et le traitement est gratuit sur toutes les étendue du territoire national.
Des sources médicales renseignent que parmi les cas enregistrés, les zones minières sont les plus affectées par la tuberculose à cause notamment de la forte promiscuité dans ces milieux. Il s'agit notamment de Mongwalu, Nizi et Bambou en territoire de Djougou ainsi qu'à Nyanya en territoire de Mambasa. Santé toujours. Dans le sud Ubangi, ce mois d'avril, c'est la campagne de dépistage volontaire au VIH-SIDA. Cette campagne est organisée par les ONG Cordaid et CDI Boamanda avec l'appui financier de l'ONG internationale Vision Mondiale. Dans un premier temps, ce sont des enseignants, des policiers, des militaires, des prêtres et des pasteurs qui sont ciblés avant la campagne de masse qui sera organisée ultérieurement. Des précisions avec Dominique Wolombi.
Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de l'objectif de l'OMS d'arriver à zéro cas de VIH-SIDA à 2030. D'après Dr Delphine Badianga, chargée de suivi et évaluation de lutte contre le SIDA au CDI Boamanda, elle consiste à augmenter le taux de VIH-SIDA qui est actuellement de 10% pour l'ensemble de la province sanitaire du sud Ubangi. Les ONG Cordaid et CDI Boamanda ont choisi comme cible pour ce dépistage volontaire les enseignants, les policiers et militaires, ainsi que les prêtres et pasteurs. Ces stratégies, indique Dr Delphine Badianga, a pour but d'apporter l'information aux autres couches de la population qui fréquentent les groupes ciblés. Aux pasteurs des églises de réveil, il leur est demandé de référer les malades du sida directement aux structures de santé, plutôt que de les soumettre aux séances interminables de prières. Mardi, c'était les enseignants de la zone de santé de Guémena qui se sont fait dépister volontairement au VIH. Ce mercredi, c'est les tours des policiers et militaires et jeudi, ce sont les prêtres et pasteurs qui passeront à l'épreuve. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapangi, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, la première lampe de la micro-centrale hydroélectrique qui va alimenter le chef-lieu du territoire de Massissi a été officiellement allumée hier mardi. Cette mini-centrale est construite par le PNUD avec 80% de financement du gouvernement sud-coréen. Sa construction entre dans le cadre du projet de relèvement communautaire et la consolidation de la paix dans cette entité. Un reportage de Bernard Denyangui.
La mini centrale d'une puissance moyenne de 250 kW est construite sur la rivière Wau avec le financement d'environ 530 000 dollars américains, dont 330 000 de la Corée du Sud et 100 000 dollars financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. La société civile de Massissi pense que cette énergie sera un autre facteur d'unité des résolutions des conflits interethniques dans la zone. Gisèle Bahati.
L'électrification de notre cité va contribuer à la coordination pacifique entre les communautés.
Le territoire de Massissi vient effectivement de traverser une longue période d'instabilité sécuritaire qui a impacté négativement ses infrastructures de développement. L'ambassadeur de la République sud-coréenne en RDC estime de son côté que le courant électrique produit pourrait tant soit peu soulager le peuple de Massissi Centre. Kichang Kwan.
Il y avait des besoins qu'on a pu étudier avec la CNUD et on a réalisé qu'un projet d'électrification apporterait le bien-être à la population de Massissi.
Alors que c'est pour la première fois que les 40 000 habitants de Massissi Centre vont bénéficier de cette énergie propre. La distribution ne pourrait intervenir que dans un ou deux prochains mois après la fin des travaux de transport, a dit le vice-gouverneur Feller Lutai Chirwa. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Toujours dans le Nord Kivu, les déplacés internes qui sont dans des familles d'accueil dans le territoire de Lubero font face à d'énormes difficultés. Ils sont obligés d'exécuter des travaux manuels pour leur survie, mais une difficulté de plus vient s'ajouter à leur souffrance, c'est la dépréciation du franc congolais. Conséquence, leur pouvoir d'achat a sensiblement baissé et les tensions qui en découlent les opposent fréquemment à leur hôte. Sekou Mbika Tondolo nous en parle.
Comme dans la plupart des cas, les déplacés internes dans le territoire de Lubero ne sont pas regroupés dans des camps, ils sont plutôt hébergés dans des familles d'accueil. De ces faits, ils sont obligés de contribuer aux revenus de la famille. Pour ce faire, ils sont contraints de s'adonner à des travaux manuels. À Kirumba, par exemple, ils effectuent le raclage de terrain pour un lopin de terre de 25 mètres carrés, par exemple. Ils sont payés 5 dollars. Avec la dépréciation du franc congolais, ils n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leur famille. C'est ce que nous dit ici John Kambale, coordonnateur de l'association Ajadiru, basée à Kirumba.
Déplacés font des travaux journaliers, ça fait que les déplacés soient incapables de répondre aux besoins alimentaires au sein de leur ménage et familles respectives. C'est le camp de temps de pommes de terre qui était à 250 francs, aujourd'hui à 500 francs. C'est le camp de Bomba, c'est un plastique de farine de foufou qui coûtait 1000 francs et aujourd'hui c'est à 1500 et à 1800 francs. Donc vous voyez que ça impacte négativement sur la valeur des équipements qu'il doit avoir un déplacé, alors que les travaux qu'ils sont en train de faire n'ont pas ajouté aussi des prix.
Pour tenter de trouver un palliatif à cette situation, les autorités locales ont lancé une opération d'identification des déplacés pour plaider une assistance auprès des ONG œuvrant dans ces secteurs. Mais aussi, elles demandent au FRDC de restaurer la paix dans leur milieu d'origine. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Et du côté du Grand Katanga, l'administrateur assistant du territoire de Sakania s'est dit préoccupé par le nombre croissant d'enfants enlevés et amenés dans son entité. Zachary Kilongue cite le cas des deux enfants mineurs enlevés au début du mois d'avril par des inconnus. Ces deux enfants ont été retrouvés lundi et ramenés par le bureau de services genre famille et enfants de Kasumbalesa. Près de 10 autres ne sont pas encore retrouvés. Zachary Kilongue appelle ses administrés à signaler tout cas de disparition constaté dans leur milieu. Entre-temps, les mobiles de ces enlèvements ne sont pas encore connus et leurs ravisseurs courent toujours avec d'autres enfants. Nelly Kabena nous relate les faits.
Ces deux enfants ont été retrouvés par des passants, complètement essoufflés. Le premier a 17 ans, il vient de Kanyama, dans la province du Haut-Lomami. Disparu depuis le 30 mars, il était encore bouleversé qu'il n'a pas su expliquer les circonstances de son enlèvement. Le second est une fille de 12 ans qui habitait la commune Ruachi, à Lubumbashi. Deux femmes l'ont enlevée depuis le 6 avril. Elle est restée au quartier Golf, gardée par des hommes en armes. Elle était avec une dizaine d'enfants, dont les tout petits qui gardaient sur eux leur tablier de l'école maternelle. C'est le samedi que leurs ravisseurs les ont amenés de Lubumbashi vers Kasumbalesa, puis ils sont sortis de la grande route pour se retrouver en brousse où ils se sont arrêtés pendant des heures. Ces ravisseurs ont pris tous les garçons et les ont ramenés à une destination inconnue. Restée seule, elle s'est échappée en courant toute la nuit jusqu'à l'entrée du village Kasumbalesa. Information livrée par le bureau genre de la cité de Kasumbalesa. Informé, l'administrateur du territoire de Sakania qui gère aussi la cité de Kasumbalesa appelle les parents à la vigilance et les invite invite à dénoncer tout cas de disparition d'enfants. De Lubumbashi, Noli Kabena, Radio Okapi.
Éducation. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire présente ce mercredi le nouveau bulletin scolaire uniformisé. Le ministre Gaston Moussemena dit avoir pris cette décision pour répondre à l'un des trois défis qu'il a trouvé à son entrée au gouvernement. Parmi ces dossiers, la construction de 1000 écoles suspendues jusque-là et les diplômes d'État qui ne sont plus délivrés aux lauréats qui terminent les humanités. Le ministre renseigne que le gouvernement a importé 20 millions de bulletins pour répondre aux besoins des écoles de la RDC. Gaston Moussemena, joint par Daniel Tambinzoni.
Nous avons déjà décidé l'application de la loi, c'est-à-dire la standardisation ou l'uniformisation des titres scolaires. Parce qu'il y a 5 ans même, il n'y avait plus de bulletins uniformes. C'est l'inspection générale de l'éducation qui a produit des maquettes pour donner à ces documents un caractère national. Lorsqu'on va vous présenter ces documents scolaires, ces bulletins, vous allez voir que la première page prend juste les armoiries et de l'autre côté, il y a maintenant le bulletin avec toutes les spécificités traditionnelles. La donne que nous avons mise, c'est la qualité du bulletin pour éviter la falsification. Obligatoirement, ces bulletins seront disponibilisés à travers l'ensemble du territoire, c'est-à-dire dans toutes les écoles, parce que nous avons pris l'option de les partager, de les distribuer. Si à Kinshasa déjà, nous allons procéder à la remise d'à peu près 4 millions de bulletins pour la ville de Kinshasa et ce nombre-là correspond au nombre des enfants identifiés en ce moment au niveau de l'enseignement primaire et secondaire.
Dans l'actualité, notez aussi que Jean-Claude Kazembe n'est plus gouverneur du Haut-Katanga, vous le savez. Il est déchu par une motion de censure votée à l'unanimité hier par l'Assemblée provinciale. Tout son gouvernement tombe avec lui. Les 24 députés sur les 30 que compte cet organe délibérant ont pris part à ce vote lors d'une séance plénière. Noëlla Louzi tout nous en dit plus.
Plusieurs griefs sont retenus contre Jean-Claude Kazembe. Passation des marchés en violation des procédures, centralisation des affaires de l'État, non-exécution du budget voté par l'Assemblée provinciale, ainsi que le manque de collaboration entre lui et son adjoint. Le gouverneur du Haut-Katanga se trouvait à Kinshasa lorsque sa déchéance et celle de son équipe a été votée à Lubumbashi. Quant à la vice-gouverneure Bijou Mushitukat, elle a déposé sa démission le mardi matin à Kinshasa auprès du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. C'était avant même que l'Assemblée provinciale ne se réunisse en plénière pour voter la motion de censure.
Le Haut-Katanga se retrouve donc sans gouvernement provincial à sa tête, mais que prévoit la loi dans ce cas d'espèce? Écoutez la réponse de Maître Gilbert Kiachingé, il est expert en décentralisation et il répond au micro de Guy Matetsungo.
Lorsque j'ai lu sur les réseaux sociaux la démission de Madame la vice-gouverneure, je me suis dit, mais voilà encore un coup d'épée dans l'eau. Parce que tous les signaux étaient déjà rouges. On savait que la motion allait être votée par défaut. Et que donc, démissionner alors que dans quelques heures, tout le gouvernement allait être démissionnaire, je pense que c'était vraiment
et dans les faits, qu'est-ce que la loi prévoit?
Ce que la loi prévoit, c'est que le gouvernement provincial va continuer à expédier les affaires courantes. C'est sous la gestion du vice-gouverneur, parce que même une démission qui n'est pas encore acceptée n'en est pas une. Donc il faut qu'une démission soit acceptée. Donc la loi prévoit que lorsqu'il y a une telle motion, le gouvernement expédie les affaires courantes et sous réserve bien sûr qu'il y aura peut-être des recours. Si la motion est confirmée, la CENI devra organiser rapidement. Si ma mémoire est bonne, c'est dans le délai de 60 jours maximum, on doit organiser des élections pour doter la province d'un nouveau gouverneur de province et d'un vice-gouverneur et celui-ci va former son gouvernement.
Actualité Afrique Monde.
Notre tour à l'étranger commence par le Gabon, où le dialogue national est effectivement entré dans sa phase politique après 3 semaines consacrées au recueil des propositions de la société civile. La cérémonie d'ouverture a été présidée au stade de l'amitié sino-gabonaise par le Premier ministre Emmanuel Issoze, qui était pour la circonstance entouré des coprésidents du dialogue pour l'opposition et la majorité. Entre-temps, Jinping continue de bouder ce dialogue alors que les conclusions qui seront issues seront transformées en loi de la République. En Centrafrique, le programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, semble sur le point de redémarrer. Jeudi et vendredi prochain, pour la première fois, les 14 groupes armés se retrouveront autour de la table du comité consultatif de suivi chargé de piloter le DDR, un programme dont le coût est estimé à 45 millions de dollars, dont 30 millions financés par la Banque mondiale sous la forme d'un don qui vient d'être octroyé au gouvernement. Le programme est prévu pour durer 30 mois à compter de fin mai, début juin prochain. En Syrie, l'évacuation des localités assiégées a repris ce mercredi sous haute surveillance, 4 jours après avoir été interrompue par un attentat qui a fait une centaine de morts, dont de nombreux enfants. Cette opération est menée à l'aide d'une 60aine d'autocars, dont au moins 45 sont partis et très tôt ce matin des 2 localités loyalistes assiégées depuis 2 ans par les rebelles. Parallèlement, 11 autres bus ont quitté les localités rebelles de Zabadani, Sergaya et Jabal Tcharki dans la province de Damas. Terminons par cette nouvelle, le vice-président américain Mike Pence, en visite à Tokyo, a salué ce mercredi la contribution des entreprises japonaises à la prospérité américaine dans une volonté de dissiper les inquiétudes après des remarques protectionnistes de Donald Trump. L'Amérique est reconnaissante au Japon pour ses investissements, a-t-il lancé devant un parterre d'hommes d'affaires des deux pays. Il a notamment cité le géant automobile Toyota qui avait été pris pour cible en janvier par le président américain pour un projet d'expansion au Mexique. Dans un tweet rageur, il avait alors menacé le groupe de représailles douanières.